commencé à 2 ans en biplace avec mon père, qui vole depuis lui 35 ans. Je les embêtais beaucoup, j'arrêtais pas de porter des casques, je savais pas parler, je disais pam pam dans tous les sens, je voulais vraiment voler. À l'âge de 2 ans, il a dit bon bah il veut voler le gamin, je vais l'emmener voler. Donc de 2 à 10 ans, bah il me faisait voler en biplace, je faisais les siestes en l'air, et c'était pratique pour le père, tu vois, quoi, fallait me garder à la sortie de l'école ou le mercredi après-midi, il pouvait aller faire du parapente, et j'étais pas bien chiant pour ça. Je courais avec des serviettes, je courais avec tout ce qui pouvait voler dans le vent de 2 ans à 10 ans, et bah, il me fabriquait des tout petits parapentes, c'était mon cadeau à Noël. Il grandissait un caisson, c'est les entrées d'air, donc je gagnais un caisson tous les ans à Noël. On a une table de manœuvre où on a tous la même, il y a une trentaine, quarantaine de figures. Alors après il y a plein de petits trucs qui changent, maintenant on peut se twister, on se retourne, on se met face à la voile, donc on vole le dos face au vent, on fait les tricks donc face à la voile. Ça te rajoute des points en technique. On emmagasine de l'énergie et de la vitesse en faisant une spirale à gauche ou à droite. Et quand on inverse le sens de rotation, bah, ça nous catapulte au-dessus de la voile.
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Elliot Nochez. Bonjour Elliot.
Salut.
Merci de prendre ce temps. Écoute, je suis ravi d'avoir l'occasion de t'accueillir sur ce podcast. Ce que je te propose Elliot, c'est que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu commences par te présenter si ça te va.
Alors bah, je m'appelle Elliot Nochez, je suis sportif de haut niveau en parapente acrobatique. Ma discipline mère c'est vraiment le parapente acrobatique. Et à côté on est passionné par le monde de l'outdoor, on pratique... pas mal de sports de glisse, le ski, le speed riding, de la montagne, forcément. C'est notre milieu où on exerce. Et un peu de bay jump, un peu de kitesurf, voilà. Tout ce qui glisse et connecté à l'air nous plaît forcément. Donc avant, j'ai fait de la
compétition. Donc on appelle ça aussi sport de glisse, même si c'est avec l'air. Ça,
ouais, bah, on glisse sur plusieurs supports. En parapente, bah, on glisse dans l'air. En kite, on glisse sur l'eau. En ski, sur la neige. Ouais, c'est vraiment des sports qui se rapprochent quand même beaucoup et que c'est vraiment cette sensation de glisse. J'ai fait de la compète à haut niveau pendant 7 ans et depuis, bah, j'arrive à vivre grâce à l'image et à faire des images et des films qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, j'ai pu me mettre à plusieurs disciplines et maintenant, on arrive à mixer un peu tous ces sports ensemble et puis ça fait un résultat en images plutôt sympa et puis on s'amuse bien, ouais.
Ah, ça c'est canon, effectivement les images sont assez bluffantes, j'en ai profité en l'occurrence cette semaine pour en regarder quelques-unes, c'est vrai que c'est assez balèze. Qu'est-ce que, pour ceux qui te connaissent peut-être pas assez bien, tu pourrais reprendre la genèse, ça commence comment le parapente, tu vois, est-ce que tu as un souvenir de ton premier vol, comment ça se passe?
Alors ça commence à remonter, tu vois, il y a 2 jours au décollage, là il y avait des mecs qui avaient 10 ans de plus que moi et qui demandaient un peu à tout le monde combien de temps ça faisait que chacun volait. Et tout le monde s'attendait à 5-6 ans, et puis quand ils m'ont demandé, je leur ai dit bah, ça fait 17 ans, donc je suis pas bien vieux, mais ça y est, on est déjà dans le monde des dinosaures des volants. J'ai commencé à 2 ans en biplace avec mon père, qui vole depuis lui 35 ans. Je les embêtais beaucoup, j'arrêtais pas de porter des casques, je savais pas parler, je disais pam pam dans tous les sens, je voulais vraiment voler. À l'âge de 2 ans, il a dit bon, bah, il veut voler le gamin, je vais l'emmener voler. Donc de 2 à 10 ans, bah, il me faisait voler en biplace, je faisais les siestes en l'air et puis je passais pas mal de temps. C'était pratique pour le père, tu vois, quoi, fallait me garder à la sortie de l'école ou le mercredi après-midi, il pouvait aller faire du parapente et j'étais pas bien chiant pour ça. Et à 10 ans, ils m'ont fait faire de mes 4 ans à mes 10 ans, j'avais des petites voiles qui volaient pas, mais pour apprendre à les gonfler. Je courais avec des serviettes, je courais avec tout ce qui pouvait voler dans le vent. De 2 ans à 10 ans, et bah, il me fabriquait des tout petits parapentes, c'était mon cadeau à Noël. Il grandissait un caisson, c'est les entrées d'air, donc je gagnais un caisson tous les ans à Noël. Et à 10 ans, bah, forcément, j'avais acquis une maîtrise au niveau de la manipulation de la voile au sol assez importante, et ils se sont dit bah, il a les capacités maintenant de voler tout seul. Du coup, les premiers vols en solo à 10 ans, à 14 ans, on commence à regarder un peu par le biais des vidéos aussi. Pas mal de gens disent que c'est qu'il y a des bons côtés de la vidéo, ça pousse à la connerie, mais ça aussi, ça influence et ça incite les gens à faire autre chose et à voir autre chose. Donc, moi, par le biais de la vidéo, j'ai vu les gars qui faisaient plein de pirouettes avec leur parapente. Je me suis dit, oh, c'est pas mal ça. Donc, on s'est mis à la voltige. De 14 ans à 17 ans, on s'est entraîné comme des brutes. Et puis petit à petit, on s'est mis à la compète. À 17 ans, je faisais les premiers championnats de France. Je pensais aller me triquer avec les copains qui avaient mon âge et puis je finissais deuxième. Je me suis dit, ah, je crois que je vais faire ça dans la vie. Et puis voilà, c'était parti. À 18 ans, on faisait les saisons de Coupe du Monde. Et puis voilà, 2 ans plus tard, on arrivait à gagner pas mal de trucs. Donc, j'ai fait ça pendant 7 ans à haut niveau. Et maintenant, plein d'autres disciplines à côté et de la
Et
vidéo.
alors que je comprenne un peu, du coup, tu dis tu commences la voltige à 14, ça veut dire que du coup, entre 10 et 14, du coup, enfin, tu fais des vols un peu plus simples, et qu'est-ce qui fait le déclic, du coup? Il y a une vidéo en particulier dont tu te souviens peut-être qui t'a fait le déclic ou pas?
Ah, c'était un peu le début de la discipline en voltige. Donc ouais, au début, il faut apprendre à décoller, atterrir. Donc ça, par le biais des gonflages, quand j'étais gamin, j'avais déjà bien appris. Mais après, comprendre la masse d'air, déjà comprendre tout ce qui est l'aérologie. Le parapente en soi, c'est très simple. Hein. Tu tires à droite, ça va à droite. Tu tires à gauche, ça va à gauche. Après, c'est comprendre l'aérologie, savoir quand toi tu peux voler, pas voler. Ce qui était bien, c'est qu'on était jeunes et puis nos parents, moi, mon père, je sais que c'était Dieu. Je crois pas en Dieu, mais le père, j'y crois bien. C'était un peu mon assurance vie, quoi. Donc, il me disait ça, je peux le faire, je le faisais. Ce que je pouvais pas faire, j'écoutais aussi. Donc voilà, de 10 ans à 14 ans, on apprenait un peu à comprendre tout ça, l'aérologie, apprendre à faire des petits vols, enrouler les ascendances, commencer à se balader de montagne en montagne. Et c'était un peu le début de 4, ouais, à partir de 2007-2008, c'était un peu le début de la voltige. Une équipe de, une famille espagnole là, qui commençait vraiment à faire des premières manœuvres qui engageaient bien la viande. Donc forcément, on voyait un peu ça, on se disait, bon, ça peut être intéressant, le vol en ligne droite et puis prendre de l'altitude, c'est sympa, c'est un peu le parapente que tout le monde connaît. Mais ouais, quand on serre des manettes d'une certaine façon, ça peut vraiment envoyer du lourd, on prend une quantité de jets incroyable et c'est des sensations vraiment monstrueuses. Donc on a regardé ça, le padré a regardé et il s'est dit que ça pouvait être bien fait. On a des stages au-dessus de l'eau, en milieu sécurisé pour apprendre à faire les premières manœuvres. Donc il m'a fait faire un stage, deux stages, et puis petit à petit on a réussi à progresser là-dedans. Et puis vu qu'on était tout jeune, tout fou, on avait forcément tous les mentors et tous les cadors de la discipline qui nous prenaient sous leurs ailes. Et puis on a vite trouvé des bons coachs et des bons mentors pour progresser safement et puis aller dans la bonne direction. Hein.
Mais tu vois, ça m'intrigue parce que quand on parle par exemple d'une figure de skate, tu testes le ollie, tu testes enfin, toi, une barre, tu veux essayer de glisser dessus. Bon, si tu te rates, au pire, tu tombes, tu vois. Comment t'appréhendes du coup la première fois que tu fais une figure dans un endroit où en fait, si tu te rates, c'est vraiment la merde?
Alors non, c'est pas vraiment la merde. On passe pas de on-off. Effectivement, et puis nous, on n'aime pas trop les blessures. Le skate et ces sports-là, moi, j'y respecte vachement parce que ouais, ils passent leur temps à se faire mal. Et puis quand je vois les potes, quand nous on part s'entraîner, les copains partent skater, bon, ils reviennent le soir, ils ont plus de genoux, ils ont plus rien. Nous, effectivement, soit on est debout, soit on est mort, soit on a un dos pété ou les chevilles amochées. Mais il y a vraiment un juste milieu. On a deux parachutes de secours. L'altitude, c'est marrant, c'est psychologiquement quand on est très haut, c'est pas mal de personnes, c'est là où on a le plus peur, on apprend le plus, mais c'est là où on est vraiment en sécurité, parce qu'on a énormément d'altitude pour avoir le temps de gérer un incident de vol et un sketch. Donc, et puis les arbres aussi nous protègent vachement. Quand tu t'écrases dans les arbres, t'es pas tout de suite à impacter le dur, la planète. Donc un bon milieu déjà, du bon matos, voilà, deux parachutes de secours, un beau box d'évolution, une belle zone. Et après, vachement visualiser et mentaliser la figure, le mouvement qu'on va faire. Déjà le comprendre un peu au sol, comment ça va se passer, analyser ce qui peut se passer. Et puis voilà, une fois que tu es prêt un peu dans la tête et que tu as bien regardé comment ça, toutes les éventualités, tout ce qui pouvait t'arriver, tu peux te permettre, avec de l'altitude, au bon endroit, aller essayer. Et puis on progresse vraiment. Ouais, c'est comme dans tous les sports, on ne fait pas le plus gros tricks au tout début. Quand on commence, voilà, il y a toute une panoplie de figures et on commence par la petite. Et puis. Quand on arrive à la grosse, forcément, on a un peu plus d'expérience et il nous est déjà arrivé des tuiles, donc on sait s'en sortir aussi, on sait se battre en cas de vrac, on appelle ça, en parapente, quand la voile ça en mêle un peu et puis que les ficelles font pas des trucs très catholiques. Donc voilà, une fois que tu t'es fait un bon bagage technique, tu peux te permettre d'aller voir un peu plus loin.
Et alors typiquement, tu parles de deux parachutes de secours. Est-ce que les parapentistes classiques ont aussi des parachutes de secours ou c'est vraiment parce que cette discipline demande une sécurité ou un filet de sécurité?
Alors non, on vole généralement avec un parachute, tout parapentiste vole avec un parachute de secours en montagne où il y a plein de moments. Enfin, on peut ne voler sans parachute. Le parapente est très tolérant et puis le matériel a énormément progressé. C'est très rare que ça serve un parachute si on ne grille pas les étapes, qu'on ne se met pas dans des conditions nucléaires quand on n'a pas le niveau. Normalement, on n'a pas besoin du parachute. Après, quand tu voles sur des sites un peu fréquentés, bah, il peut avoir de la collision. On a des priorités, mais voilà, on est en l'air. Des fois, les gens sont un peu tout fous. Ils regardent pas à droite, à gauche. Et puis, tu te rentres dedans, tu es content d'avoir un parachute. Et nous, en accro, d'en avoir deux, bah, si ça part vraiment en sucette... Que tu tires le premier parachute qui s'ouvre pas, t'es content d'avoir une deuxième cartouche pour te sauver la peau. Donc oui, c'est quand même cool d'avoir deux parachutes en accro. Toutes les sellettes, tous les équipements, les sièges, les harnais dans quoi on est assis en l'air, on en a des spécifiques pour la voltige. Et effectivement, il y a deux parachutes de secours quasiment sur toutes les sellettes d'accro. Ouais.
Et comment ça se passe du coup typiquement quand tu fais une session est-ce que ça t'est déjà arrivé d'utiliser les parachutes de secours?
Bah, j'ai eu de la chance, justement, en apprenant bien. Au début, tout le monde nous disait, tu seras obligé de tirer des secours. C'était les premiers infinites. Quand on passe au-dessus de la voile, on fait de la corde à sauter. Et je me disais, je les voyais faire en vidéo. Oui, certes, ça vraquait souvent. Nous, notre pire hantise, c'est de tomber dans la voile. Quand on passe au-dessus, si on n'a pas assez d'inertie et de vitesse, bah, les suspentes, on est en gravité, les suspentes, les ficelles se détendent et puis tu tombes dans le tissu. Là, ça fait un beau paquet cadeau. Et puis là, tu passes dans le monde de la chute libre. C'est vraiment la plus grosse hantise. Mais je les voyais faire et quand ça marchait, bah, ils tombaient pas dedans et ils tiraient pas secours. Je me disais, en apprenant vraiment étape par étape, il y a moyen de, quand ça marche. Donc, j'ai eu de la chance de vraiment progresser, bah, au final, rapidement parce que je me suis jamais fait trop de frayeurs et puis j'ai jamais eu trop de vrac. Donc, j'ai appris toutes les figures qui existaient sans jamais tirer secours. Et après, bah, quand tu pousses un peu, des gros trainings ou des bons contests, des bons battles avec les copains où tu veux faire le plus gros tricks, ouais, t'es amené des fois à tirer un secours. Mais j'ai tiré deux fois le parachute. Une fois vraiment, j'étais au-dessus des arbres et j'étais dans un bon milieu, mais je m'étais fait avoir à vouloir te renvoyer. Et on est twisté, on tourne sur nous-mêmes et la voile tourne plus, donc les ficelles s'en mêlent. Donc bah là, au lieu de s'écraser comme ça bêtement, tu tires le secours et puis je suis tombé dans les arbres, on a débranché et puis c'était tout bon. Et une fois justement pour apprendre au-dessus de l'eau, donc en milieu sécurisé, pour apprendre et voir comment ça se passait, parce qu'effectivement c'est un outil, c'est un de nos outils de travail au final, le parachute. Mais voilà, que deux secours en 17 ans, donc il y a vraiment moyen de pas s'en servir et pas avoir trop de frayeur.
Et alors du coup, je reviens sur ma question, effectivement, qui est sur une session. Est-ce que tu as un taxi qui t'emmène régulièrement en haut pour refaire des décollages, ou est-ce que, en fait, comme le parapente, de ce que j'en comprends, te permet avec les airs chauds de remonter, il y a quand même des séances où, enfin, faut bien que tu commences quelque part de haut. Donc, comment tu t'y rends? Est-ce qu'il y a un véhicule qui s'en occupe?
Alors là, bah, tu l'as dit, le meilleur taxi, c'est la voile en soi. On sert des ascendances. En accro, on vole avec des voiles très très petites. Du coup, qui ont énormément de pêche et qui tournent, qui volent vite et puis qui tournent très fort, donc qui nous permet vraiment de la faire passer sous les pieds dans tous les sens. Donc, plus elle est petite, plus c'est compliqué d'avoir des ascendances. Enfin, plus il faut que les ascendances soient fortes pour pouvoir nous remonter. On a des sites avec un énorme rendement sur de la falaise où le vent et le soleil chauffent très fort la falaise, donc on a un gros rendement. Des sites qui sont pas très appréciés pour un pilote lambda qui vole avec une voile d'une surface normale. Moi, normalement, je devrais voler en 22 mètres carrés. En acrobatie, on vole en 14 mètres carrés. Tu vois, c'est vraiment des petites machines de guerre qui ont du lourd. Soit on sert des remontées mécaniques, soit des voitures, mais bon, on aime quand même beaucoup Mère Nature, donc la bagnole, ça fait toujours un peu chier. Sinon, à partir de, en début d'après-midi, quand les conditions deviennent très fortes, on a des thermiques assez conséquents pour nous remonter. Donc, on prend les ascendances, on prend de l'altitude, on s'avance au-dessus de la forêt dans le bon box, et là, on redescend en faisant de l'acrobatie, et puis voilà, on fait la roue toute la journée. Tu te mets 3-4 heures d'entraînement en accro, t'es rectifié. Généralement, ça se fait déjà bien. Après, voilà, on a des sites avec des remontées mécaniques à Chamonix ou des trucs comme des stations comme ça, voilà, qui nous offrent un dénivelé assez conséquent pour pouvoir s'entraîner et puis tourner une quinzaine, vingtaine de rotations dans la journée, quoi. Mais le mieux, le meilleur taxi, comme tu dis, ça reste les ascendances qui est le meilleur moyen de se véhiculer. Nous, on fait de l'acrobatie à côté. Là, tu vois, c'est la période exceptionnelle en ce moment où il reste de la neige pour les passionnés de ski. Et il y a les ascendances qui arrivent. Bah, on monte en parapente, on pose en haut de la montagne, on descend en skiant, on reprend les ascendances, on rallume le téléski et voilà. Donc, le meilleur taxi restera quand même la voile en soi, quoi.
Et même avec une voile d'acrobatie de 14 000 carrés, tu peux remonter, on est d'accord?
Ouais, voilà. Faut juste que les conditions, on parle de mètres secondes. Quand tu rentres dans l'ascendance, tu montes à 1, 2, 3 mètres, vraiment des mètres par seconde. Avec une voile traditionnelle, tu rentres dans 1 mètre seconde. Avec une voile d'acro, tu vas à peine monter. Donc, par contre, dans un thermique qui est puissant, où tu es déjà à 3, 4 mètres secondes avec une voile normale, bah, tu montes à 1, 2 mètres secondes avec une voile d'acro. Donc, tu peux te permettre de remonter, reprendre de l'altitude et puis retourner faire les runs.
C'est excellent.
Ouais.
Et alors quand tu parles d'entraînement, tu parles de 4 heures de suite, t'en fais pendant, j'ai envie de dire à plein temps, pendant 7 ans en compétition, ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement? C'est tous les jours 4 heures, c'est quoi le...
Ouais, bah tu vois, à l'époque on est allé au lycée, j'étais sur une bonne Peugeot 103, un bon brelon, je partais le matin avec mon sac de cours, mais je partais aussi avec la voile, je posais ça à l'accueil, on sortait de l'école, on filait vite, j'avais la chance que les parents habitent à côté d'un site qui marche super bien pour l'acrobatie, au-dessus de Chambéry. Donc, on passait le plus possible de temps en l'air. Bah, l'hiver, les journées sont courtes, mais l'été, ça vole jusqu'à 20h30. 20h, 20h30, 21h. Donc, bah, ça me laissait déjà de 17h pour jusqu'à 20h. Et puis, on y était. Ouais, une vie sociale un peu particulière. Quoi. On vivait avec les oiseaux et puis les buses. Et on passait moins de temps à faire la bringue avec les potes. On essayait ouais, d'y être les mercredis, les samedis, les dimanches, toutes les vacances. Ouais, on a passé énormément de temps en l'air. Faut un volume, c'est comme dans tout, hein. C'est très facile, tout humain peut être champion dans une discipline, il faut juste donner les moyens et un volume horaire monstrueux, donc on passe ouais, les grosses saisons, je passais 400-500 heures en l'air à tourner dans tous les sens, quoi. Tu mets de la musique ouais, dans la foyer, puis t'écoutes du son et puis t'envoies du lourd.
Saison, c'est une année ou c'est la fin, comment tu appelles ça une saison, tu définis quoi?
Ouais, alors les compètes, tout ce qui est Coupe du Monde, ça commence à partir de juin. Tu vois, en juillet, on a les championnats du monde. Là, ils m'ont sélectionné pour les championnats du monde, là, l'équipe de France. Bah, on essaye de s'entraîner le plus possible. Donc voilà, l'hiver, quand il n'y a pas les ascendances, on se servait des remontées mécaniques pour réussir aussi à tourner des runs. Ce qui est bien l'hiver, c'est que les conditions, bah, quand il n'y a pas d'ascendance, c'est très calme. Nous, les compètes, c'est au-dessus d'un lac et on pose sur une grosse bouée gonflable pour faire une... On arrive à faire une grosse prise de vitesse, à venir faire toucher le bout de la voile dans l'eau, à faire glisser les pieds et poser sur cette bouée. Bon, ça, c'est l'atterrissage parfait. C'est pas toujours qu'on y arrive, mais... Et donc, l'hiver, bah, quand il n'y a pas d'ascendance, les conditions sont très similaires aux conditions qu'on retrouve en compète au-dessus d'un lac. Donc, c'est aussi très intéressant de s'entraîner voilà, en faisant des ploufs, prendre les remontées mécaniques, enfin, décoller en haut de la montagne, aller en ligne droite au-dessus de la vallée et puis de descendre. Et comme ça, on peut faire vraiment des runs construits comme en compète, quoi. Donc les deux sont intéressants. Donc on s'entraînait, je m'entraînais autant l'hiver que l'été, mais c'est sûr qu'à partir de mars, avril, voilà, les thermiques sont, les ascendances sont de retour et là on pouvait vraiment entrer dans le vif du sujet.
C'est canon. Tu nous referais rapidement un descriptif d'une compète. Enfin, tu vois typiquement, tu prépares quoi? T'as combien de figures à faire? Comment est-ce que t'es évalué? Parce que t'es en l'air quand même. Est-ce que les gens te voient à distance?
Alors ouais, bah, il y a quatre juges en bas, il y a un backup avec la vidéo pour si jamais il y a une contestation ou qu'on n'est vraiment pas d'accord avec ce que les juges ont dit. Ça ressemble vachement à du ski freestyle, hein. Donc voilà, 4 juges, on a une note technique, une note de choré et une note du landing. Le latéro est vraiment important, c'est 20% de la note. Donc il faut arriver à réaliser bah, le nombre de manœuvres, ça dépend de l'altitude du site. Des fois on a des sites en compète où on arrive... pas très très haut et qu'on va dire 500 mètres et puis des compètes comme à Dubaï au World Air Game où ils nous larguaient des hélico, donc forcément bah là on avait 1000 mètres. Ce qui était bien, c'est qu'on avait tous la même altitude, donc on faisait à peu près tous le même nombre de figures, chaque pilote faisait le même nombre de figures et il faut arriver bah, à servir la masse d'air. C'est un peu comme sur l'eau, hein. On peut avoir un lac qui bouge pas, donc pas de dérive et puis bah, du courant comme en mer où t'as vraiment, et puis un courant plus ou moins fort. On appelle ça la dérive, donc s'il y a du vent, bah faut se placer différemment. Et le mieux bah, pour la note de choré, c'est d'attaquer, de jamais s'arrêter entre les manœuvres, de laisser le moins de temps possible et de finir le run très bien placé, le mieux placé possible pour pas avoir trop de laps de temps d'arrêt entre les figures et le posé. Donc voilà, un enchaînement très fluide et puis après des notes de technique qui changent par rapport à la complexité des figures. On a des grosses figures et des plus petites figures. Donc généralement, c'est trois gros tricks en haut, deux à trois tricks en dessous en bas et puis le poser.
Et ça, c'est la choré que tu bosses from scratch, dans le sens où tu pars de rien, tu l'inventes, ou est-ce que tu as des trucs qui sont un peu classiques que tu reprends, enfin, comment ça se passe?
On a une table de manœuvre où on a tous la même. Il y a une trentaine, quarantaine de figures. Alors après, il y a plein de petits trucs qui changent. Maintenant, on peut se twister, on se retourne, on se met face à la voile. Donc on vole le dos face au vent. On fait les tricks donc face à la voile. Ça te rajoute des points techniques. Et droite gauche, on peut aussi lancer un trix à droite et puis reprendre la connexion à gauche, et voilà, et tu montes tes runs voilà, suivant la complexité des figures, si tu les twists, si tu fais en reverse, voilà, il y a plein de petits trucs comme en ski où soit tu pars du trix en switch, soit tu replaques en switch, tourner dans ton sens naturel ou le sens opposé, tous ces points techniques qui rentrent en jeu.
Et alors, du coup, il y en a une qui m'intrigue en particulier, c'est quand tu appelles ça un infinity, tu fais un salto, quoi.
Le tumbling est la figure de base, donc en salto avant, on la voit le vol en direction de l'avant. Donc, on peut pas faire sur les décrochages, quand la voile va en arrière, on peut tourner sur nous-mêmes, on fait des backflips dans les sellettes. Quand on sait pour les faire en ski, on les fait en parapente et on a un beau visuel où on tourne sur nous-mêmes en backflip avec 600 mètres de haut, ça fait un visuel assez intéressant. Mais voilà, le tumbling, c'est en avant, donc la voile qui shoot très fort, qui revole très vite, et donc elle passe droit sous nos pieds, et une fois que tu es dans l'axe vertical, bah, la machine se met en route, et les voiles marchent tellement bien là depuis 10 ans que bah, ça part en infinity tumbling, ça tourne à l'infini, tant que tu freines pas à fond à un certain moment, la voile repart et recrée l'inertie à chaque tour, et donc ça te permet de repasser au-dessus et de faire vraiment la corde à sauter, quoi.
Et alors c'est vraiment la voile qui part, c'est-à-dire que c'est pas toi le poids qui contrebalance le fait, c'est vraiment le fait que la voile soit...
Le poids du pilote sert à ce que la vitesse nécessaire et la puissance nécessaire, donc on fait une prise de vitesse, on emmagasine de l'énergie et de la vitesse en faisant une spirale à gauche ou à droite, et quand on inverse le sens de rotation, bah ça nous catapulte au-dessus de la voile. Et là, après, une fois qu'on est passé au-dessus de l'aile et qu'on retombe de l'autre côté, ça retend les ficelles et ça remet de la puissance dans l'aile. Et forcément, bah, quand elle reclaque, elle repart sous les pieds. Et tant que tu touches, tant que tu restes dans l'axe, donc c'est pas touché à rien, mais et une fois que t'es dans l'axe, t'as plus rien besoin de toucher, tu laisses les bras en haut et tu touches pas au frein et puis ça repart à chaque tour. Tu reprends 6G dans
l'axe. Canon.
Et yand d'aller.
Et ça se fait, est-ce que c'est un sport uniquement individuel? Je me rends pas compte, mais comme je vois beaucoup, t'étais forcément, enfin, t'as du duo pour apprendre, par exemple, mais globalement, j'ai l'impression que la compétition se fait seule. Est-ce qu'il y a des figures que tu fais en chorégraphie à plusieurs?
Ouais, tout à fait. C'est le côté le plus visuel, qui est super sympa aussi. Bah, du coup, ça rentre avec une histoire d'équipe. On fait ça existe en compète et tout. Il y a du vol synchro en parapente acrobatique, quoi. Donc des tricks en synchro. Soit les mêmes tricks qu'en individuel, mais donc bah faut arriver à les faire côte à côte le plus serré possible. On arrive à voler aile dans aile, et là tu fais des gros tricks à 5 mètres de ton pote, donc là faut bien garder les mêmes axes et tout pour pas se tamponner. Et après il y a des super belles figures qui se font en synchro, une simple spirale, bah si l'autre fait la spirale exactement au même moment en face de toi, bah les deux voiles se retrouvent vraiment, on arrive à venir faire toucher les voiles et à faire la spirale de A à Z, les deux ensemble, l'un en face de l'autre en miroir. Ouais, il y a vraiment des super beaux. C'est une très belle discipline, le vol synchro en parapente. Et pour les démonstrations, c'est une partie super intéressante.
Bah ouais, complètement. Je me rends pas compte. Est-ce que tu vois, en mer, on parle du mal de mer. Est-ce que tu as la possibilité d'attraper ce qu'on appelle le mal de l'air, peut-être? Tu vois, la nausée en l'air parce que tu tombes trop.
La peur du vide et puis le mal de l'air. Ouais, il y a des gens, je connais des très vieux pilotes qui ça les rend malades, ils volent depuis 25 ans. Ouais, ils volent pendant 2 heures, ils se reposent au haut de la montagne, ils gerbent un coup, ils repartent. C'est très rare, ça se travaille aussi quand on mer. Il y a le vertige, tout le monde pense à plein de gens ont le vertige et ils disent ah bah non, le parapente du coup c'est pas fait pour moi. Le vertige c'est vraiment c'est un phénomène physique. Si t'as les pieds reliés au sol, tu peux avoir le vertige avec l'horizon qui s'inverse, le ciel qui passe à la place de la Terre. En parapente, on n'a plus de liaison avec le sol. Donc, le vertige, c'est vraiment inexistant. C'est impossible à avoir. Après, voilà, tu peux avoir l'appréhension et la peur du vide et le mal de l'air, mais qui sera... Et généralement, c'est les ascendances. Quand ça monte, ça descend. Comme là, où en mer, quand on peut faire du kata dans 50 nœuds, aller super vite sur un plan d'eau très lisse, tu as la sensation de vitesse et de glisse, et généralement ça brasse pas les gens, et puis tu les mets beaucoup moins vite, mais au milieu de la houle, et puis bah là tout de suite tu te mets à avoir la gerbouille. Nous en parapente, souvent les manœuvres, et puis en biplace, quand on prend un peu de vitesse et tout, bah on a les jets qui rentrent en compte. Ça brasse pas les gens, étonnamment. Mais les ascendances où ça monte, ça redescend, ça s'arrête, ça repart, ça, ouais, ça fait un peu les montagnes russes, et puis ça peut donner un peu la gerbouille.
Est-ce que tu as le réflexe, parce que je prends le parallèle avec d'autres gens, par exemple, pour mon exemple de voile, un skipper, il peut te dire, bah, viens, je t'emmène faire un tour sur le bateau, quoi. Est-ce que tu as ce réflexe-là avec des copains ou des gens que tu rencontres qui ne se font pas de la voile, de dire, bah, viens, on fait un vol en duo?
Je suis vachement connecté maintenant. On a fait pendant 7 ans du vol accro, donc voilà, dans notre sellette tout seul comme des grands, de la musique dans les oreilles, et puis à faire yoba yoba et à tourner dans tous les sens. Forcément, quand j'en suis ressorti un peu là de ce milieu haut niveau et vraiment typé accro à la recherche de la performance et des résultats, le biplace est vraiment une arme exceptionnelle pour le partage. On peut faire des beaux passages près du sol, on peut faire de l'acrobatie. On peut faire des vols de distance. Là, les combos que je te disais, où on monte en volant, on redescend en skiant et des trucs comme ça, bah, forcément, le biplace, bah, tu véhicules tes potes, tu pars avec ta chérie, tu montes en haut de la montagne, tu redescends dans la poudreuse. C'est sympa de le faire tout seul. Tu peux pousser un peu plus la discipline, faire des repos en haut de la montagne un peu plus engagés, mais en biplace, avec un certain niveau technique, tu peux faire des très belles choses aussi. Et, bah, forcément, de le partager, c'est exceptionnel.
Est-ce que tu parlais de résultats à l'instant et de compétition? Est-ce qu'on peut faire une petite passe sur ces compétitions pendant 7 ans? Comment est-ce que tu compètes? Tu m'as dit que tu as essayé avec des copains, tu termines deuxième. C'est quoi le ressenti à ce moment-là et comment ça s'enchaîne derrière
Bah, on était tout jeunes, moi j'y croyais pas du tout. À la première année, j'étais allé au championnat de France, on a des brevets de pilote à passer et un brevet de pilote confirmé. Ah, c'est comme le bac, ma mère me disait passe ton brevet de pilote, et puis je le passais pas. Une année, je me suis entraîné vraiment à Montfort, j'ai commencé à prendre du niveau. Je suis allé au championnat de France, le mec sur qui je suis tombé à l'inscription, qui m'a envoyé bouler, il m'a dit retourne passer ton brevet, et puis tu reviendras l'an prochain, qui est devenu notre coach maintenant et notre deuxième papa. Moi, je le remercie de m'avoir renvoyé bouler, et puis je suis allé passer mes brevets, et à 17 ans, je suis revenu au championnat de France. Et puis, bah, on avait fait le boulot nécessaire, donc, bah, ça faisait certes 7 ans que je volais vraiment, mais on avait les 7 années avant aussi de manipulation de voile au sol, qui nous a créé un feeling et puis un bagage déjà technique monstrueux. Toutes les mêmes, on retrouve pas mal de mouvements et de caractéristiques entre le jeu au sol et en l'air. Donc forcément, on avait acquis un feeling. Ouais, ça faisait quand même 7 années d'expérience, même si on jouait avec des petits bouts de chiffon au sol. Et du coup, bah, au championnat de France, ouais, ça a masterisé la première année. Je me suis dit, ah bah là, ouais, il y a tout à faire. À 18 ans, je suis arrivé en Coupe du Monde, j'ai pris des bonnes grosses roustes. J'ai dit, ah, il y a quand même encore du boulot, il y a encore du boulot et de l'entraînement. Et à 19 ans, je crois, à partir de 2011, là, ça a super bien marché en Coupe du Monde. Et puis bah là, forcément, tu y crois, hein, quand tu commences à réussir à te battre avec les meilleurs, quand 5, 6 ans, 5, 10 ans de plus que toi, et puis que tu vois que bah, tu as le bagage technique, que tu arrives à réfléchir et à te canaliser. La compète, c'est ça qui. J'ai jamais été le meilleur pilote à l'entraînement, même les années où j'ai tout gagné en compète. Et au final, bah, en compète, il faut arriver à être très bon le jour J, à sortir le run comme tu fais à l'entraînement. Donc, vraiment une grosse partie psychologique. C'est marrant, le stress me retournait. J'allais faire pipi 40 fois au déco. Et puis, des fois, de temps en temps, les premières Coupes du Monde, j'ai rebouillé un coup. Mais dès que j'étais en l'air, dès que je décollais, j'étais un chien fou. Et puis, j'arrivais à me canaliser et à voler super bien. Donc, ça a vachement bien marché pendant ouais, 5-6 ans. Là, en compète, ça a super bien marché. Ouais.
Quand tu fais des super résultats, typiquement quand tu es champion, c'est quoi la sensation? Parce que tu connais peut-être bien tes concurrents, je me rends pas compte si vous vous revoyez à chaque fois tous les ans.
Ouais, bah, tu vois, les sites qui marchent vraiment fort avec un gros rendement dans les ascendances pour s'entraîner en accro, il n'y en a pas non plus 150 000. Il y en a un très connu en Espagne. Tous les pilotes vont là-bas. Moi, je m'entraînais beaucoup à Chambéry. C'était le site, j'ai tout appris là-bas. Et puis, il y a des beaux arbres. C'est visuellement différent. L'Espagne, c'est très sec, il y a moins d'arbres. Mais une altitude très, très grosse là-bas à Orgaña, là, le site en Espagne, ils ont des altitudes monstrueuses grâce aux ascendances. Toutes les 20 minutes, 30 minutes, tu fais un run de 1500 mètres. Moi, à Vérel, au-dessus de Chambéry, c'était un peu plus court. C'était des runs de 500 mètres, 600 mètres, mais toutes les 5 à 10 minutes. Donc, j'enchaînais. des beaux arbres en dessous. Enfin, j'étais psychologiquement super bien sur ce site-là. Donc, il y avait plein de monde qui volait en accro sur ce site. Donc, oui, c'est des potes. On est potes toute l'année. Une super ambiance, une grande famille. Et puis, bah, en compète, quand t'arrives, c'est un peu moins famille et copains. Et puis, bah, on se tire la bourre. Mais c'est vraiment des sports, ouais, comme dans le ski, comme dans tous les sports un peu jeunes et freestyle. C'est une super bonne ambiance. Tu pleures quand tu gagnes pas, mais t'es content au fond de toi parce que c'est ton pote qui a gagné, quoi.
Est-ce que la France, elle est bien positionnée dans les pays du monde dans ce sport, ou est-ce qu'on a de la chance parce que les Alpes sont accessibles? Je m'en rends pas compte.
Et bah, comme dans quasiment tous les sports un peu extrêmes, freestyle et ouais, freestyle, on a des super bons warriors. La France, ça fait depuis 6-7 ans qu'on a. Il y a eu pas mal de Coupes du Monde où les 5 premières places étaient attribuées aux Frenchies. Ouais, on a vraiment une grosse équipe. Alors, oui, dû parce que bah, on a les bons spots pour pratiquer. Et je sais pas pourquoi, mais ouais, les Français sont relativement très très bons. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on est un des seuls pays où le petit jeune a vraiment du mal. C'est être sportif de haut niveau, c'est pas encore représenté et reconnu comme un métier. Ce qui est assez incroyable, parce que dans beaucoup, beaucoup de pays dans le monde, on peut vivre du sport et c'est acté comme un vrai métier. Et t'en parles déjà à l'école. Alors que nous, tu vois, à l'école, moi, j'étais ébéniste, quoi. J'étais pas sportif de haut niveau à l'école. Et puis, bah, derrière, on s'est fait nos armes tout seul. Et puis, tu vois, 10 ans plus tard, on en vit bien. Et puis, on s'amuse tous les jours. Mais c'est marrant que ça soit pas encore, on a encore un bon temps de retard là-dessus. Alors que dans les trois quarts des disciplines, les Français sont super bons.
Et alors, du coup, petite pause rapide, là, tu parlais d'ébéniste. T'as vraiment fait des études d'ébéniste après ton bac ?
Ouais, j'étais ébéniste pendant 5 ans. J'ai fait un bac pro ébénisterie. J'ai bossé un petit peu là-dedans. Et puis derrière, bah, ça s'est mis à super bien marcher. J'ai fait en parapente, du coup. J'aimais beaucoup le ski et le speed riding. Là, c'est des toutes petites voiles pour pouvoir skier. Vite et puis dans des endroits non accessibles en ski pur. Donc je me suis dit, bah, j'allais faire une ou deux saisons d'hiver. Donc au début, après j'étais skiman, je réglais des skis et puis je donnais des golasses à nos chers clients. Pardon. Et ça me permettait quand même de pouvoir beaucoup m'entraîner à côté et de pouvoir pratiquer, de passer du temps dans la montagne. Donc j'ai fait 4 saisons skiman et puis remontée mécanique, et c'est là où j'ai commencé à trouver moi l'hiver je suis à Valmorel, là, une petite station en Tarentaise qui est vraiment chouette pour le ski, pour le parapente et puis une vie au village super agréable. Ils sont devenus du coup un de mes gros partenaires, et puis ouais, je passe mes hivers là-haut, donc et 4 ans plus tard on avait la chance de pouvoir vivre toute l'année grâce à ça.
Bah justement, j'allais dire comment t'en vis. Ok, donc jusqu'à ce que tu arrives à un niveau national, équipe de France, etc., tu faisais un boulot à côté, et puis au moment où tu arrives équipe de France, tu peux en vivre du coup ?
Bah, du coup, vu que c'est pas un métier qui est encore bien reconnu, et donc pas facile, et puis pas si simple de trouver des partenaires, comme pas mal, hein, au début, je faisais les saisons d'hiver, et puis mon sponsor principal, c'était Pôle emploi, donc je pouvais faire mes saisons à haut niveau comme ça, je bossais l'hiver, et puis je m'entraînais les. Je gagnais des sous avec les prize money en compète, mais c'était pas suffisant. Donc, je me suis aidé une année de Pôle emploi qui me sponsorisait très gentiment. Et derrière, dès que j'ai pu arrêter de me servir de ça, merci. Grâce aux résultats, tu trouves des partenaires et du temps de libre. Donc, tu peux t'entraîner encore plus et pratiquer encore plus. Donc, au petit à petit, tu trouves des sponsors qui te rémunèrent sur les résultats. Tu prends les prize money. Et voilà, on a de la chance, c'est surtout d'être tous les jours dehors et d'avoir une vie qui nous coûte les premiers trucs que tu as en partenaire, c'est d'être défrayé de tout. Donc il n'y a pas besoin d'avoir 1 million par an pour passer la saison. Donc voilà, on arrive à s'entraîner tout l'été et tout l'hiver et à faire les compètes. Et puis après, je me suis mis petit à petit du coup à la vidéo, et maintenant on est rémunéré par le biais de la vidéo.
Et alors, du coup, par exemple, on parle de vidéo, t'embarques, tu me parlais tout à l'heure de... Je faisais la blague sur ton pull GoPro, mais en fait, effectivement, t'en embarques quand même quelques-unes. À partir de quand tu te rends compte que ça peut être intéressant de partager ce que tu vis toi là-haut à d'autres par la vidéo, ou même de prendre des images de vue extérieure de toi, de ce que tu fais là-haut ?
Bah moi j'ai tout de suite trouvé ça, tu vois, tout à l'heure je te disais, j'ai été motivé moi-même dans la vie pour faire du sport au lieu d'aller faire des bêtises après l'école avec les potes qui font pas de sport, et puis bah, forcément des fois t'as envie de faire des conneries. J'ai préféré aller les faire en l'air par le biais de la vidéo, en voyant les autres qui faisaient des trucs comme ça, et puis ça m'a inspiré. Et donc je comprends bien qu'il y ait plein de gens qui disent que la vidéo est vraiment pas bon et que ce soit pas un bon outil, que ça pousse plus à la connerie, et que les gens quand ils voient ça, ils se disent je vais faire pareil. Certes, il y a cette partie-là qui est un peu négative, mais à côté, tu peux aussi influencer les gens, les motiver, les faire rêver, et puis leur donner un peu d'envie et d'espoir. C'est vraiment accessible à tout le monde. Il faut juste donner les moyens et se bouger les fesses. Nous, on a eu de la chance d'être né dans une famille qui pratique le sport, et on a plein de potes qui ont attaqué à 25, 30 ans, une 40 ans, qui étaient dans une vie, on va dire, traditionnelle, qui étaient déjà très heureux, mais voilà, ils sont venus habiter à la montagne, ils se sont mis au parapente, tout le monde peut faire un stage et tout le monde peut s'y mettre. Dès le début, c'est plaisant, il n'y a pas besoin de faire des trucs extrêmes pour se faire plaisir. Et voilà, c'est juste très motivant. Et donc, bah, forcément, je me suis dit, bah, pourquoi pas inciter les gens. Et après, bah, tu as des retours, des commentaires qui sont super chaleureux, qui font vachement plaisir, et les gens te le disent, quoi, que ça, c'est inspirant et que ça les motive à vouloir faire des choses dans le genre, quoi.
Et toi, tu fais pas partie de ces... Enfin, je me rends pas compte, mais j'entends ma question. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui vont avoir tendance à monter, par exemple, à pied, tu vois, en mode alpiniste, un pic et décoller de là-bas? Ou est-ce qu'en fait, il y a quand même des conditions dans lesquelles tu peux pas forcément décoller autrement?
Alors, j'étais pas très, ça s'appelle du hike and fly, marcher et voler. J'étais pas très ski, pareil pour l'hiver en ski, les remontées mécaniques, ça me plaisait bien. Bon, bah, cette année, on n'a pas eu le choix, on a fait beaucoup de rando. Et j'ai eu la chance de rencontrer ma chérie, vient de ce milieu-là, elle était à haut niveau en ski d'alpinisme, donc en ski de rando. Donc forcément, je m'y suis mis de plus en plus. Elle est débutante en parapente, donc monter à pied le matin quand il n'y a pas des grosses conditions, pas d'ascendance, et de redescendre en volant, bah forcément ça l'intéresse bien. Donc on partage pas mal de vols rando comme ça ensemble. C'est un côté super plaisant, hein. Tu pars à la fraîche le matin, tu montes en haut de la montagne, tu fais un vol très calme, très doux, dans les premières lumières de la journée. Là, c'est aussi exceptionnel. Tu vois, je te dis tout à l'heure, je te parlais des combos parapente-ski. Bon, je t'avouerais que là, à cette époque, quand les ascendances me catapultent dans le ciel, que je peux poser en haut de la montagne et redescendre en skiant sans avoir marché, je m'en sers le plus possible. Et c'est très plaisant aussi. Mais en vieillissant, ouais, je me mets de plus en plus à marcher et à profiter aussi de ces jeux-là.
Alors attends, moi j'ai raté un truc. Tu es capable de décoller d'en bas avec un vent ascendant, tu te mets sur une pelouse et c'est parti?
Ah, tu pars pas des champs, c'est pas du paramoteur, on n'a pas non plus un moteur, il faut au moins un petit dénivelé. Mais ouais, là, en ce moment, on décolle les skis dans l'herbe. Sur les champs en fond de vallée, et puis tu prends les ascendances, tu montes 600 mètres, 700 mètres, tu commences à être les pieds dans la neige, tu poses en haut, bah, suivant ton niveau technique, tu arrives à poser dans des endroits plus ou moins engagés et là où tu veux. Tu replies le parapente en 10 secondes, tu mets tout dans le sac, et puis tu sors des bâtons et tu redescends en ski.
C'est
Et ça,
excellent.
tu peux le faire. Moi, je m'étais amusé à le faire en vélo, je décollais avec mon vélo dans le dos, tu prends les ascendances. J'avais fait 6 runs de vélo dans la journée, j'avais pas mis un coup de pédale, j'ai fait que de la descente. Alors après, tu as des points positifs et négatifs. Certes, tu pédales pas à la montée et tu montes en volant en t'amusant, mais tu portes le vélo en volant, pas très agréable, hein, des vélos de descente qui font 15 kilos. Et à la descente, forcément, tu portes le parapente. Mais bon, ils font des voiles très légères maintenant qui volent super bien. On a un sac en combo parapente ski. Je redescends, j'ai 4 kilos, 5 kilos dans le dos, compact, qui est super bien. On peut skier super fort. Donc, ouais, c'est vraiment des
C'est
combinaisons.
énorme.
Ouais, c'est des combinaisons de folie. Hein.
J'imagine pas du tout en fait le vélo dans le dos pour décoller. Enfin, ça doit être quelque chose quand
J'avais
même parce
accroché
que.
au sac à dos, donc il était dans mon dos de travers, et puis j'avais fait des longes, bah, comme un système de biplace pilote et passager. Et en gros, le vélo était le pilote, donc comme ça il était porté par la voile, c'était pas moi qui le portais à même mon dos, et puis ça me mettait pas la tête à l'envers du coup. Et moi j'étais le passager, donc on volait en l'air, il voulait pas faire des appuis, il voulait pas se pencher à droite et à gauche le vélo, donc c'était pas si simple que ça pour voler, mais ça marchait super bien. Et tu vois, j'ai fait 5 runs dans la journée, tout le tour d'une grosse vallée, des missions assez incroyables.
Attends, j'insiste une dernière fois sur ce point. Comment tu fais pour décoller la voile? Parce que déjà, que pour en avoir fait un petit peu à niveau débutant du parapente, bah, le début, là, les quelques mètres où il faut marcher et qu'elle se gonfle, c'est quand même sportif. Si tu rajoutes 15 kilos de vélo dans le dos, comment tu fais?
Bah, c'est comme tout. Une fois que tu as un niveau technique en parapente qui te le permet, ça, c'est moins sportif, comme tu dis. Si tu as 15 km heure de vent de face au décollage, tu peux gonfler la voile sans avoir besoin de courir. Donc, je gonflais la voile dans le vent, je pouvais me retourner, le vélo il était pas pris dans les ficelles. Ça, c'est quand ça marchait bien. Il y avait eu des premiers essais où les ficelles s'étaient prises dans le vélo et tout. Il y a eu 2-3 moments chaotiques dans l'histoire. Mais une fois que tu es bien calé et que tu as réfléchi un peu à tout, le vélo était derrière. C'était pas très agréable, mais ça marchait très bien pour voler une heure, prendre les ascendances, aller se poser où je voulais et puis descendre en vélo. Hein.
Et alors, tu passes du coup combien de temps aujourd'hui à faire de la vidéo typiquement? Tu parlais de cette, je vais l'appeler reconversion, plus ou moins. Et donc, au lieu de faire de la compétition, tu es plutôt sur un format vidéo. Tu passes combien de temps dans la semaine à faire ça?
Bah, y a tout le côté, tu vois, je continue quand même à faire du parapente accro. Là, pour aller représenter la France, je pense pas que je ferai des gros résultats. Mais par contre, je peux quand même apporter des bons points au niveau de l'équipe. Et ça me permet de rester dans le monde du freestyle et puis de progresser, de continuer à progresser, de garder mon bagage technique de pilotage. Parce que derrière, bah voilà, pour aller voler, tu vois, tout à l'heure je te disais les combos parapente et ski, je décolle au plus léger. Souvent, j'ai pas de parachute de secours, donc t'es content de savoir bien gérer ta voile et puis d'avoir un bagage technique monstrueux pour être au plus léger à la descente. Et donc toute la partie en l'air, bah, je prends des voiles pas compliquées, assez faciles par rapport à mon niveau, qui me permettent, voilà, en restant raisonnable, de voler dans des conditions fortes et en toute petite sellette de montagne et voilà, et des fois pas de secours. Si c'est vraiment fort en condition, souvent juste pour la partie mentale, je prends un secours avec moi. Mais voilà, le parapente accro, ça nous amène un bagage technique de pilotage monstrueux, donc de rester là dans le milieu de l'accro, ça m'aide vachement. Et après, bah, faut arriver à progresser, tu vois, on mixe les disciplines, donc bah faut y passer du temps, parce que bah si tu veux mixer du kite avec du parapente, bah faut être à peu près bon en kite pour aller devant une caméra et puis être bon en parapente dans plein de sports comme ça. Donc bah j'y passe dès qu'il fait beau, je suis dehors à pratiquer tel ou tel sport pour progresser dans plein de disciplines. Et tout à l'heure je te disais, c'est très facile pour un humain d'être très bon dans une discipline, t'en bouffes énormément et tu fais que ça, tu vas devenir bon à un moment. D'être multisport et de progresser dans plusieurs sports, c'est puis des sports qui restent quand même pas anodins, entre le base jump, le ski, la montagne, le para, le machin. Forcément, tu es obligé de réfléchir un peu à toutes ces disciplines. Donc, moins facile et bon, je progresse moins vite que quand je faisais qu'une seule discipline. Donc, bah, faut que j'en bouffe un volume monstrueux. Puis après, bah, suivant les projets vidéo, on y passe généralement une semaine, entre 4 jours et 5 et 6 jours sur le terrain à filmer. Là, on a fait un projet avec du ski de course, du ski de race. T'as, t'es le premier à teaser ça d'ailleurs. On n'en a pas trop parlé pour l'instant. Avec un champion de ski, là, avec Julien Lizeroux, qui était un des grands champions olympiques et des gros warriors de l'équipe de France, où on fait du ski de course, du ski race contre du parapente. Et ouais, du coup, bah, tu vois, sur le timing, ouais, temps de shooting, généralement, on y reste une semaine. Là, on a fait ce projet avec du ski avec Julien Lizeroux, là, en ski de race, au milieu des piquets. Et puis moi, je prends les portes aussi avec lui sur du slalom parallèle, du géant. Et voilà, j'en dis pas trop, comme ça, vous découvrirez tout ça en images. Un petit teaser, là, dans 3-4 jours. Et puis après, on va essayer de faire les festivals de films à l'automne. Mais donc, généralement, ouais, c'est grosso merdo une semaine de shooting et puis derrière il y a 2 bonnes semaines en post-prod à bosser sur les ordi et on essaye de... Moi, je suis pas très très bon, les vidéos marchent bien parce qu'on a trouvé des super idées de projet. Le premier projet vidéo que j'avais fait, on avait eu l'idée de tendre une slackline, c'est les fils sur quoi les mecs marchent, et on l'a tendu entre 2 parapentes. En plus, on a eu la chance d'avoir des photos où le mec, on avait l'impression qu'il marchait sur le toit de l'Europe, sur le Mont Blanc, donc forcément ça a fait des gros buzz dès le début. Et après, on véhiculait les mecs en vélo, on les larguait à ras-le-sol, on faisait la course contre eux, je les récupérais en plein vol. On l'a fait avec du ski, on l'a fait avec la wingsuit. Donc, on a eu des idées qui ont plutôt bien marché dans le monde du parapente. Quand tu mixes les disciplines, bah, moi, je touche le milieu du parapente, tu touches le milieu du sport en face. Et puis, forcément, ça touche aussi une partie du grand public. Donc, c'est des projets qui marchent bien, mais il faudrait que je sois un peu plus... je le suis de plus en plus, mais voilà, faut arriver à poster du contenu assez régulièrement. J'aime beaucoup faire des trucs que les autres font pas, donc je poste pas si régulièrement, mais quand on poste un truc, ça marche généralement plutôt bien et de mieux en mieux. Mais ouais, c'est sûr que c'est un métier, on y passe un temps fou, il faut bosser sur l'ordi et publier régulièrement, rester. Ouais, c'est super agréable de voir tous les beaux retours, donc on essaie de rester proche et de répondre un peu à tout le monde et d'être le plus convivial possible avec tout le monde. Donc ouais, on y passe du temps. Ouais.
Tu parlais à l'instant de cette slackline qu'effectivement j'ai vu l'image passer. Vous l'attendez entre deux parapentistes et il y a un équilibriste entre les deux qui va marcher. Il a son parachute, imagine, après.
Ouais. Il a, dans la vidéo, il a pas de chaussures, mais pour mieux sentir le fil sous les pieds, mais il a bien un parachute. Sinon, on aurait passé quelques copains, on aurait rempli un cercueil en un projet. Ouais, il a pas très grand parachute. On a beaucoup d'altitude pour pouvoir, lui, s'il part un peu en vrac, il a largement le temps de se remettre à plat et de tirer le parachute. On décollait. Moi, j'étais en biplace avec le slacker, avec Thibaut. En l'air, l'autre parapentiste qui était déjà connecté à lui, la slack était déjà connectée. Il la faisait pendre en dessous, donc la slack volait derrière lui. Le deuxième parapentiste, donc moi, je venais, je récupérais la slack qui volait derrière. On la connectait à nous, on se remettait à droite et à gauche. On mettait de la tension dans la ligne. Thibaut pouvait se décrocher, il partait en cochon pendu sur la ligne, et puis au milieu, il se mettait assis, puis debout, et il a fait 4-5 pas, 4-5 jolis pas comme ça dessus. Hein.
C'est excellent.
Là, tu vois, par exemple, ça, par contre, lui, il nous a coûté. On y a passé un bon mois, quoi. Il nous est arrivé une super histoire. On s'est lancé dans la vidéo en mettant des points directs. On s'est fait à la fin du shooting, on avait toutes les images, on était tout bon, on avait de quoi faire un film de folie, il avait fait 4-5 pas magnifiques, et on s'est fait péter la bagnole, perdu 15 000 euros de matos, et puis toutes les vidéos. Ce qui est cool, c'est qu'on a refait le montage, on a re-shooté du coup pendant une semaine, c'est déjà 2 semaines qu'on y était, on a déjà fait une cinquantaine d'essais, on a refait une semaine de shooting avec des images encore mieux, et puis du coup, il y avait encore plus d'entraînement, donc ça a sorti un super beau film, mais on est parti, on a déjà mis un trou dans la caisse dès le début, puis heureusement le film a super bien marché derrière, ça nous a permis de faire plein de festivals et puis de se faire un peu connaître dans le monde de la vidéo, puis on a rembrayé j'ai eu d'autres idées où on mixait des disciplines assez rigolotes et puis qui n'ont jamais été vues, donc forcément ça marche bien.
Putain, quel enfer de faire voler tout le matos, tout le boulot que t'as fait, quoi.
Ouais, ouais, on se disait merde, ça commence mal.
J'imagine pas. Ah ouais, c'est clair.
Bon, c'est pas grave, c'était. Ouais, faut passer forcément par des points hauts et puis des points bas, et puis faut pas lâcher et puis continuer à se battre. On a eu un gros point bas dès le début, effectivement, et puis derrière, c'est reparti. On a remboursé tout le matos et puis on a eu des belles images.
Tu nous ferais une petite pause matérielle. Alors, on parlera vidéo après, mais surtout matériel de voile. Tu vois, t'as combien d'ailes chez toi? Comment tu les choisis? Je sais pas, est-ce qu'on peut en parler?
Et c'est bon, je peux ouvrir un magasin de sport là, il y a une petite caserne d'Alibaba. Vu que je touche à plein de disciplines, tu vois, en parapente accro, il nous faut une 14 mètres carrés pour vraiment faire de l'accro pur. Quand on va jouer dans le vent et près du sol, du vol de proxy, on a besoin d'une voile un petit peu plus grande. On pourrait tout faire avec une seule voile, hein. Tu prends une voile assez polyvalente, tu peux faire du vol de distance, un peu d'acrobatie, un peu de tout, mais pour performer dans chaque discipline. Forcément il nous faut le matériel adéquat. Moi j'ai la chance de travailler avec une super marque de parapente chez Advance Paragliding et ils sont ravis du boulot qu'on fait, donc généralement moi je demande les voiles que j'ai besoin typique pour le projet ou pour la session, et puis dès que j'en ai plus besoin je la rends, comme ça je monopolise pas une voile qui reste dans les placards. Toutes mes voiles servent, on n'a pas du matos qui ne sert à rien à la maison. Mais forcément un biplace, un machin, un bidule, donc forcément on a 4-5 voiles de parapente. En sellette, c'est soit des sellettes montagne, voilà, pour être au plus léger possible pour les combos, une sellette d'accro et puis une sellette de distance. En distance, pour voler 7-8 heures et faire des 200 km, on a des sellettes très confortables où on est couché dedans et les jambes enveloppées dans du néoprène pour pas avoir froid et puis vraiment être très profilé. Donc ouais, c'est 2 à 3 sellettes, 3-4 voiles de parapente, et puis alors après si tu combles avec tous les autres sports, 2 sacs de bay jump, en kite il faut 3-4 voiles, ouais, le camion il est rempli. Le KGB à côté, pour le plus grand malheur de ma chérie, il est rempli de matériel. notre truc.
Ça, attends, du coup,
j'ai... les robes, bah, nous, c'est du matos de parapente et de sport. Les skis, des machins, j'en ai rien. Bon, c'est sûr que, mais bon, c'est au moins, on a tous les jouets pour pouvoir pratiquer plein de disciplines et puis performer dans plusieurs sports, quoi.
J'ai entendu parler de parapente avec de la distance. Ça, pour le coup, ça m'intéresse. Enfin, comment ça se passe, quoi? Tu m'as dit 200 km. Enfin, c'est quoi? Une journée où il fait beau, il y a des bons vents et tu vas faire quoi? Chambéry, Grenoble? Ou par lui, pas
Ouais,
plus.
bah, il y a moyen de faire des vols. Moi, je fais déjà des vols de 200 bornes, mais je suis vraiment un piou-piou dans la discipline. J'essaierai de performer un peu plus tard, mais les maestros de ce sport-là, de cette discipline, ils font, je sais plus, le record est en France et il est à 350 km. Et puis, au monde, au Brésil, il décolle avec beaucoup de vent, des ascendances très puissantes. Bah, il décolle au plus tôt le matin. Et après, il vole vent arrière. On est à plus de 500. Je veux pas te dire de conneries, mais les records sont monstrueux. Il y a plus de 500 km de fer. Nous, dans les Alpes, là, on essaie de faire des triangles généralement. Soit tu fais des distances libres, donc tu pars généralement bah, vent arrière, parce que tu voles plus vite qu'avec le vent de face. Et distance libre, donc d'un point A à un point B. Et après, ce qui est assez rigolo, c'est de faire on appelle ça des triangles effaillés. C'est des triangles équilatérales. Donc forcément, tu vas avoir une branche travers vent, une branche un peu face au vent, et puis une branche vent arrière. C'est vraiment un triangle. Donc bah, faut décoller sur les bonnes faces. Le matin, c'est en face est, là où le soleil chauffe les faces est. Tu décolles au plus tôt. Si tu décolles trop tôt, il n'y a pas les ascendants. Donc voilà, il faut trouver le créneau horaire tout pile. Être bien placé. Et puis, bah, ouais, ça fait faire des gros vols. Hein. On se balade dans les Alpes. Hein. Tu fais 200 km en triangle. Tu vois un peu de paysage. Tu restes
C'est
un peu
canon.
ces 8 heures en l'air. Ouais, c'est une discipline qui est vraiment super agréable. Et puis maintenant, les voiles, elles volent. Ça devient des petites F1. C'est les F1 des déserts. On vole à 50, entre 50 et 60 km/h quand on accélère. Oh, pour des casques intégrales sur les sellettes, ils nous mettent même une petite vitre pour se protéger du vent. Tu prends 8 heures de vent dans la tronche et puis tu es à 3000, tu prends un peu le froid et tout, tu rentres, t'es claqué à la maison. Ce qui est rigolo, parce que c'est vraiment l'image du sport un peu vieillot, voilà, Pépé Moustachu qui va faire du parapente, il prend de l'altitude, il fait de la distance. Mais si tu pousses un peu le truc, c'est vite épuisant et c'est assez vite engagé et sympa comme discipline aussi. Tu feras
Et
un bruit de la porte qui s'ouvre.
il reste 6 minutes, on va y arriver, t'inquiète pas.
Pas de problème.
J'avais une question au niveau matériel, donc vidéo cette fois-ci. Tu as parlé effectivement de GoPro que tu as perdu en vol. Comment tu t'équipes pour prendre ce genre d'image?
Bah, la GoPro, c'est sûr que ça nous a apporté ces petits outils qui sont quand même super agréables. À l'époque, on avait des paluches, des machins, fallait des caps, fallait tout se brancher. C'était une merde sans nom. Et puis, il n'y avait pas de grand angle et c'était pas une qualité bien optimale. Donc, c'est sûr que les GoPro nous ont vachement aidé à filmer voilà, des sports un peu d'action. Et à côté, en vidéo extérieure, bah là maintenant, il y a les drones de race aussi qui nous apportent, qui apportent énormément dans le monde de la vidéo. Ils arrivent à nous suivre. J'ai un autre pilote de drone là, il fait du parapente aussi. C'est un gros skieur de haut niveau en freeride et il fait du parapente. Il est pas mauvais donc, et il est très bon au drone. Donc forcément, il arrive à nous faire des images de folie. Du drone
Ah,
très.
Michael. Tu parles de Michael, j'imagine.
Parle de Michael.
Ouais, canon.
Dans l'émission, effectivement. Et après, bah, de la caméra extérieure, hein, on sert généralement, on a deux caméramans, un droniste, et puis un photographe, et puis un peu de GoPro pour faire un peu d'image en embarqué. Et puis, ça commence à faire un bon mix, quoi.
Et alors, au début, tu as parlé beaucoup de on, quand on part après l'école, on machin. Est-ce que c'est un peu le réflexe, comme pour reprendre mon exemple de voile, un skipper il dit jamais je, il dit on avec son bateau. Est-ce que c'est on avec ta voile ou est-ce que tu as un groupe de copains avec qui tu partais à l'époque?
Bah déjà, j'aime pas bien parler de moi-même. Donc, bah en accro, on était toute une petite équipe à faire pareil. Je suis pas tout seul à le faire. Et après, les cascades, les conneries, il y a quelques cascades ou combinaisons où on n'est pas beaucoup. Et des fois, je suis même tout seul à le faire. Mais généralement, les projets que j'entreprends, tu vois, une course de ski, bah on est deux. Et il y a l'équipe de prod derrière. Donc, ouais, forcément, c'est toute une équipe à chaque fois. Tout à l'heure, on parlait du biplage. J'adore partir avec les copains, faire des combos ou la chérie. Donc forcément, on est plusieurs et c'est quand même sympa d'avoir un petit esprit de groupe, quoi. Ça fait
Canon.
peur dans les grosses turbulences ou quand t'es dans la merde, quand t'es tout seul, ça fait peur. Et puis quand t'es à plusieurs, ça fait moins peur. C'est sympa d'être plusieurs.
Et vous vous parlez comment d'ailleurs en l'air? Tu peux hurler ou il faut que...
Bah, quand on entend une slackline, que toute l'équipe est reliée, qu'on est à 20 mètres l'un de l'autre, on se braille dessus, tu vois, on n'a pas le temps de... Il y a déjà trop de trucs à gérer, on peut pas prendre, lâcher la commande et puis aller prendre la radio pour se parler. Donc là, généralement, on se braille dessus. En plus place, on est collé l'un à l'autre, on n'a pas besoin de crier. Et en vol de distance ou quand faut se caler, s'il faut aller filmer de l'acrobatie, donc j'ai de l'altitude et puis que les caméramans sont au sol, ouais, on prend des radios ou nous, on fait pas mal par téléphone, hein, tu te mets en direct. Après, il y a des systèmes de radio connectés tout le temps, un peu comme les systèmes de motards, les mêmes systèmes que les motards utilisent généralement. Mais le plus utilisé le plus souvent, c'est de la radio du talkie-walkie qui marche un peu mieux, voilà, de la radio de parapente.
Ouais, c'est quand même. Bah, c'est quoi ton...
voix d'enfant, tu vois, pour brailler sur les autres, on m'entend pas beaucoup. Et... Donc, les radios et les téléphones me servent bien. Ouais.
Tu comptes arrêter un jour de faire du parapente ou pas?
Je compte arrêter un jour. Bah, tu vois, il y a tellement de disciplines. Le parapente accro, à tourner en rond, à fond les ballons, bah, au bout d'un moment, ça m'a pas lassé, mais j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. Alors que la discipline a encore vachement évolué, j'ai vraiment pas fait le tour, mais j'avais envie d'aller voir un peu ailleurs. Mais tu vois, entre servir des voiles pour monter, prendre l'altitude, poser, serrer, et puis redescendre en vélo, en speed, en ski, en machin, enfin, avant d'avoir fait le tour entier de la discipline, compliqué. Il y a le hike and fly, donc monter à pied, faire des beaux sommets, descendre en volant. Le cross country, les vols de distance, j'ai tout à apprendre. Je pense qu'il me faudrait au moins 3-4 vies pour arriver à me lasser. Et là, en plus, maintenant, je fais du kite, du bay jump, du machin. Donc, tous les deux jours, je change de discipline. Donc, quand je reviens au parapente, ma discipline mère, je suis épanoui comme jamais. Ouais, non, là, je crois que c'est inlassable. Je pourrais peut-être même pas vivre sans tout ça, quoi. Alors, arrêter, hein, je suis pas prêt.
C'est quoi, du coup, ton plus grand rêve dans ce cas-là? Est-ce que t'en as un?
Eh bah, continuer comme ça, être épanoui. Pas se faire mal, hein, les blessures sont assez chiantes, hein, ça fait pas du bien et puis on perd du temps. Essayer de continuer à faire progresser la discipline, à la faire connaître au plus large des publics, travailler un peu le côté sécu, et, tu vois, éviter qu'il y ait on aimerait qu'il n'y ait jamais d'accident et qu'on soit dans un vrai monde de bisounours, juste s'amuser et puis qu'il n'y ait pas le côté négatif. Voilà, et puis de transmettre. À côté, j'ai un beau projet avec des gamins malades et handicapés. Je suis devenu le parrain de l'association et on leur fait découvrir mon univers. Ils font un peu de parapente, un peu de montgolfière, de l'ULM. On est déguisés, on passe des journées super conviviales. C'est des ptios qui pètent vraiment pas la forme. Et quand tu fais voler une gamine qui va se faire greffer 3 semaines plus tard et puis qui a des chances de pas s'en sortir et que tu vois qu'elle ressort de l'hosto et qu'elle t'appelle et puis qu'elle te dit « t'as vu, je vais revenir voler », tu te dis que ça vaut vraiment le coup de le faire et puis de partager tout ça. Donc bah, continue à faire tout ça et puis surtout continue à être heureux.
C'est énorme. T'as un endroit où on peut suivre ces histoires, hein?
Et bah là, il y avait plus de Facebook parce que j'avais fait le guignol et je m'étais fait hacker la page, mais là j'ai retrouvé ma page pro athlète sur Facebook, Instagram, et puis j'espère à l'automne faire plein de festivals de films, les Montagnes en Seine et puis les High Five et tous ces beaux festivals. Montagnes en Seine, c'est sympa, c'est que ça passe dans la France entière. Donc voilà, aller présenter le film en direct et puis pouvoir échanger, communiquer avec le public, c'est super agréable. Voilà. Un peu de festival, un peu les réseaux. Et...
Ça va bientôt faire une heure qu'on discute. C'est trop cool parce que du coup, c'est passé hyper vite. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir, de boire toutes tes paroles. Est-ce que, deux questions avant qu'on se quitte, tu as une méthode que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer? Toi, tu as commencé très très tôt. Si on prend un autre exemple de un jeune gamin qui a des idées en tête, selon toi, c'est quoi les étapes à suivre?
Eh bah, vraiment pas s'enflammer. On en a parlé à un moment donné, voilà, par rapport à du skate, c'est sûr que soit tu reviens à la maison intact et nickel, soit t'as un dos pété ou soit t'es mort. Les accidents et les décès, c'est vraiment pas la partie rigolote, donc j'ai pas envie d'influencer les gens à vouloir vite progresser et aller très vite. Généralement, quand on veut aller trop vite, en plus, on se fait peur et on tue la progression et on va beaucoup moins vite que ce qu'on pourrait faire. Donc vraiment faire étape par étape, essayer de bien se servir de sa tête et puis bien analyser toutes les choses, partager, essayer de piocher des informations et poser des questions au mec bon et pas bon, parce qu'un gars qui a moins de niveau que toi peut t'apporter un ressenti différent et puis t'ouvrir un peu des idées autres que les tiennes. Donc vraiment échanger, essayer de piocher à droite à gauche et de se servir de tout le monde, ça crée le partage et c'est super agréable en plus. Mais voilà, ouais, pas sauter d'étape, aller vers chez des professionnels, hein, ça vaut le coup de faire des stages de parapente chez des pros, et ça marche, hein, d'apprendre avec son pote qui sait faire et puis d'aller découvrir dans les champs, hein, mais bon, c'est moins, voilà, un professionnel a suivi quand même des formations qui sont surtout en France très poussées, donc ça fait des très bons moniteurs, et essayer de faire les choses dans les règles de l'art, quoi, donc faire des stages et puis pas griller d'étapes par la suite, et puis se donner les moyens et y croire, hein, ça peut que marcher de toute façon.
S'il y en avait la techno pour te renvoyer un peu dans le temps et tu peux en discuter avec Elliot qui a tout juste 10 ans, qui va faire son premier vol en autonomie, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Bah lâche rien, hein, ça va marcher, hein, tu vas y arriver, tu vas pouvoir vivre de ce que t'aimes et puis faire des belles choses. Et ouais, ça m'a vraiment épanoui, ça fait 15 ans que je suis vraiment vraiment heureux et épanoui dans la vie. Donc moi je dirais, comme mon père m'a dit, de rien lâcher, de rester prudent. Pas se tuer, pas se faire mal, et puis voilà, il y en a d'aller.
Merci Elliot pour ce super temps, j'étais ravi de faire ta connaissance avec l'émission, merci de m'avoir accordé cette superbe heure avec toi.
Et ben, grand plaisir, j'espère qu'il y aura plein de gens qui nous auront écoutés et qui ont passé un bon temps, et puis se mettre au parapente ou les sports plein air en règle générale, moi me passionne, et la nature nous offre quand même un bel espace de jeu pour plein de sports différents, donc autant en profiter, quoi.
Complètement. Complètement. Eh bien, écoute, à très vite sur les réseaux sociaux pour voir les prochaines idées, les prochaines vidéos et le ski race.
Avec grand plaisir. Ciao, ciao.
Salut. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt. Oh,